Bonjour à toutes et à tous, l'ABC de la médiation familiale, c'est sur CFM Rodez toutes les deux semaines, une émission en partenariat avec l'ADAVEM de l'Aveyron. L'ADAVEM, c'est l'association départementale d'aide aux victimes et de médiation, et avec moi dans les studios, comme toutes les deux semaines, Lucia Vintila. Bonjour Lucia.
Bonjour David.
Lucia qui est médiatrice familiale diplômée d'État à l'ADAVEM de l'Aveyron, et Lucia qui est toute seule dans les studios aujourd'hui, il n'y a pas de Justine qui reviendra bientôt.
Elle va venir, oui, bientôt. Et en théorie, je ne suis pas tout seul parce que je suis avec toi. Et on ne pratique non plus parce que, comme on a annoncé il y a quelques semaines, au début de l'année, on change le format de l'émission et on a des surprises pour tout le public. Donc aujourd'hui, par téléphone, c'est mon collègue Alexandre Ramous, médiateur familial diplômé d'État à Adage Montpellier. Mais merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté l'invitation dans l'ABC de la médiation.
Bonjour, Alexandre.
Bonjour, merci. Déjà, je voudrais remercier Lucia de l'invitation, parce que c'est toujours sympa de pouvoir évoquer son métier au plus grand public.
Bah ouais, alors vous, votre structure, c'est l'ADAGE. J'ai peut-être pas bien entendu ce qu'a dit Lucia.
Oui, alors c'est un service de médiation familiale qui appartient à ADAGE. Enfin, ADAGE, c'est une très, 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 très grande association qui gère beaucoup de choses, hein, qui gère des EHPAD, qui gère des centres d'hébergement. En gros, il y a à peu près 1700 employés dans toutes les structures. Donc nous, on est une petite structure à l'intérieur de cette association qui faisons de la médiation familiale. Donc on est quatre médiateurs. Trois médiatrices et un médiateur.
Avec Lucia, donc vous êtes collègue, mais vous vous connaissez personnellement? Vous avez eu l'occasion de vous rencontrer à travers des dossiers, des médiations ou pas?
On se connaît et on ne se connaît pas.
Ah.
Oui, on a travaillé ensemble une seule fois l'année dernière. On a mis en place une médiation en visio. Moi, j'étais à Rodez et Alexandre à Montpellier. À côté d'Alexandre, c'était une dame. Et l'autre partie, donc l'autre parent, c'était à Monde ou quelque chose comme ça, donc très loin.
Ouais.
Et pour ça, on a mis en place cette médiation en visio, parce qu'après Covid, tu sais, nous, on était obligés un petit peu à se renouveler, si tu veux, et à prendre en calcul qu'on ne peut pas être physiquement dans tous les coins de la France, donc on a mis en place des médiations en visio. Et ça a bien fonctionné, c'était la première fois pour les personnes aussi, quand ils ont fait ce type de médiation en visioconférence. Pour nous aussi, n'est-ce pas Alexandre, pour nous aussi c'était la première fois.
Oui, et moi en effet, moi c'était la première fois, c'était même je crois la première visio que je faisais.
D'accord, tout s'est bien passé techniquement déjà, parce que dans ces trucs-là, déjà la technique... Vous avez vu Lucia? Lucia...
Non, ça a été pas mal. Hein.
Ouais, Lucia a vu Alexandre, tout le monde s'est bien vu.
C'est ça.
Ça arrive. Alors, c'était quoi? Parce que dans les médiations, en général, il y a un médiateur par situation. Là, vous n'étiez pas chacun avec un membre du couple. Pourquoi vous étiez deux?
Oui, bah, on peut être deux médiateurs. Ça s'appelle la comédiation. On a parlé avec Justine l'année dernière dans une des médiations, quels sont les types de médiations. C'était comme ça parce que madame, elle était de Montpellier et monsieur, il a dit qu'il veut aussi être accompagné par quelqu'un. Lui, il avait, si je ne me trompe pas, des origines ici en Aveyron. Et comme ça, on a mis en place la médiation. Bien sûr qu'avant, on lui a bien expliqué le cadre de la médiation pour bien comprendre que moi, je ne suis pas le médiateur de monsieur et Alexandre n'est pas le médiateur de madame. Parce que, oui, en ce type de comédiation, si tu veux, les personnes peuvent comprendre ça, que chacun, ils vont avoir leur médiateur qui défend leur intérêt.
Ouais,
non, on est neutre, impartial et on a un jugement. On n'est pas là d'avoir des projets ou de tenir parti. On n'est pas des avocats, comme je dis en chaque émission. Et on essaye de garder la neutralité avec chaque cas qu'on a.
Alexandre et Lucia d'ailleurs, c'est quoi? Alors vous êtes tous les deux collègues, vous faites un peu le même métier, mais pas exactement. Il y a des grosses différences dans vos pratiques, alors soit parce que vous êtes à Montpellier, Lucia ici à Rodez, ou pour d'autres raisons.
Il y a quelque chose de commun et c'est important pour assurer en tout cas la compétence de chaque médiateur diplômé d'État, c'est justement la formation. Hein. Mmh. Donc, mais à partir de ça, on n'utilise pas forcément les mêmes outils. En tout cas, on a une exigence de garder un cadre qui est le même, d'avoir une posture qui est la même. Après, en tant que personne, on est différent. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, notre intervention est pas la même que ce soit moi ou que ce soit Lucia, c'est évident. Et puis, on n'utilise pas forcément les mêmes outils. Alors, je connais pas assez Lucia pour savoir quel outil elle utilise, mais en tout cas, moi, même dans mon propre service, entre médiateur et médiatrice, ouais, on n'utilise pas forcément les mêmes outils et comme on travaille avec qui on est, forcément, c'est pas la même chose.
Ouais. Et alors, quand vous dites on n'utilise pas forcément les mêmes outils, même au sein de la même structure, on choisit par affinité, par goût, par expérience, par usage, ou il y a d'autres raisons qui font choisir tel ou tel outil et pas un autre qu'utilise un collègue ?
Alors, pour ma part, moi, j'ai un panel d'outils qui me convient, que j'ai essayé au fur et à mesure des années. Je suis médiateur familial depuis 7 ans, maintenant presque 7 ans.
D'accord.
C'est une question d'affinité, hein. C'est une question, est-ce qu'on se sent à l'aise ou pas? Après, ouais, il y a plein d'outils. Il y a la trame historique du couple. On retrace avec le couple, le vécu, de la relation et de la séparation. Moi, j'utilise le jeu Dixit.
Oui, Lucia aussi, je crois, en tout cas, on en a déjà parlé. Oui.
Voilà, donc on l'utilise. Donc moi, j'ai fait une formation là-dessus et c'est vraiment très intéressant. Hein. C'est des cartes qui ont un fort pouvoir projectif. Donc chaque personne peut faire coller la situation, son vécu de la situation, sur des images qu'il choisit, et ça permet de décaler un petit peu le face-à-face et de pouvoir travailler quand vraiment la verbalisation est difficile.
Oui, je pense que les outils, chacun on utilise en fonction de notre expérience, mais aussi on les applique pour chaque personne, parce qu'on ne peut pas utiliser, moi aussi j'utilise les cartes Dixit, mais je ne peux pas l'appliquer en avec chaque séance, ouais, ou avec tout le monde. Mmh. Pour certains ça marche, oui, pour d'autres personnes ça ne marche pas, ils ne vont pas apprécier, ou ce n'est pas le cas.
Alexandre, est-ce qu'on, vous à Montpellier, en tant que médiateur familial, on vous sollicite de la même façon que Lucia ici à Rodez, c'est-à-dire c'est une démarche volontaire d'un couple qui viennent d'eux-mêmes vous rencontrer pour essayer de résoudre un problème, ou il y a d'autres situations ?
Alors nous, sur Montpellier, c'est un peu spécifique. On a 3 portes d'entrée à la médiation familiale. On a la porte d'entrée où c'est la décision d'un juge. Oui. Et après l'avoir proposé aux parents, dans sa décision, ordonne une médiation familiale. Il y a une deuxième porte d'entrée qui est une porte d'entrée où c'est une démarche spontanée. Hein. C'est un des deux parents, en général, vient nous solliciter et on met en place la médiation à partir du moment où on a rencontré les deux parents et que tout le monde est d'accord pour la mettre en place. Et puis, il y a une troisième porte d'entrée qui est plus liée à Montpellier, puisque Montpellier participe à une expérimentation depuis 2017 maintenant. Oui. Qui s'appelle la tentative de médiation familiale préalable obligatoire. Ça impose aux parents, lorsqu'il y a déjà eu une décision de justice et lorsqu'ils veulent la faire modifier, donc aller vers le juge, ça les oblige à faire une tentative de médiation familiale.
D'accord. Oui, donc là, c'est contraint un peu.
Alors, on doit tenter de se rencontrer. Après, quand on ne veut rien y faire, on n'y fait rien. Oui, il y a une contrainte de rencontre, en tout cas.
D'accord.
Il y a des exemptions possibles, notamment l'éloignement géographique ou des faits avérés de violence conjugale. En gros, c'est une petite incitation à se rencontrer. Alors, c'est vrai que dans le monde de la médiation familiale, quand ça a été mis en place, il y avait beaucoup de réticences. Voilà, la médiation familiale, on est dans une dynamique où chacun doit être libre de sa démarche. Et ça venait un petit peu heurter tout ça. Et finalement, on se rend compte que ça fonctionne pas mal. Les gens se saisissent pas mal de cette opportunité.
Alexandre Ramos, vous êtes médiateur familial, vous aussi diplômé d'État à Montpellier, je le rappelle. 7 ans hein, d'exercice dans cette activité. Vous devez en avoir des souvenirs, des bons, des moins bons. Vous avez dû en engranger de l'expérience. On va revenir sur peut-être quelques-unes de ces histoires, quelques-uns de ces dossiers avec vous dans la suite de cette émission. Mais avant ça, Alexandre, je ne sais pas si avec Lucia vous avez eu le temps d'en parler, mais Lucia, elle adore la musique.
Oui.
Eh oui.
On n'en a pas parlé.
Ah bon, bah, vous allez le découvrir dans cette émission. C'est...
J'ai déjà écouté les podcasts, donc j'ai vu qu'il y avait de la musique.
Ah bah voilà.
J'imagine.
Et voilà. Et c'est Lucha qui s'occupe de la playlist, Lucha. Qu'est-ce qu'on va écouter ce coup-ci?
Aujourd'hui, j'ai choisi pour cette première partie d'émission Chris Hagman, Always Remember Us This Way.
Oh là, je ne redirai pas à ta place, hein, parce que c'était compliqué. Merci beaucoup, Lucha. On
avec
se retrouve
plaisir.
Juste après dans l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes. CFM Rhodes, l'ABC de la médiation familiale. Deuxième partie, toujours avec Lucia Ventilla, médiatrice familiale diplômée d'État à la DAVEM de l'Aveyron, qui est avec moi dans les studios. Et puis par téléphone aussi, toujours Alexandre Ramous. Lui aussi est médiateur familial diplômé d'État. Mais Alexandre, il est du côté de Montpellier. C'est pour ça qu'il est avec nous par téléphone. Alexandre est médiateur depuis 7 ans maintenant. Tiens, d'ailleurs, un petit mot avant qu'on regarde peut-être quelques affaires en particulier. Alexandre, en 7 ans, je ne vais pas dire qu'il y a une routine qui s'est installée, mais bon, les dossiers, quand on les voit arriver, on se rappelle toujours à un événement antérieur ou non, les choses changent, les choses évoluent et vous en découvrez encore de nouvelles tous les jours quasiment.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la carrière de médiation familiale, on est toujours un peu dans le contrôle, hein, ouais. Alors que normalement, médiation, on essaie de ne pas l'être. Donc on essaye toujours on a toujours dans l'esprit de dire, ah là, ça va être une médiation facile, là, non, ça va être un peu plus compliqué. Et on en revient au fait qu'une fois sur deux, on se plante. On est toujours très, 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 très étonné par la tournure des événements. J'ai déjà eu des situations où les personnes venaient en disant, oh, maintenant, on est déjà d'accord sur tout, on veut juste rédiger une convention parentale. Et puis finalement, ça s'est pas très, très bien passé.
Foutait sur la gueule, ouais.
Et inversement, voilà. Donc, alors, ça va jamais jusqu'à un acte de violence, hein, mais c'est vrai que, de toute façon, la situation de médiation familiale, c'est une situation plutôt angoissante, violente par nature, parce qu'on est face à face avec les gens se font face à face et n'ont pas forcément envie d'être là, ils sont contraints par la situation, et de toute façon, ça leur fait violence, donc quoi qu'il arrive, ce sont des situations qui sont difficiles.
Et vous êtes là, justement, pour qu'elle se passe le mieux possible, évidemment. Alors, depuis 7 ans, Alexandre, du côté de Montpellier, ouais, des dossiers, vous en avez croisé un paquet, j'imagine, tous sont différents, certains ont des points communs. Par quoi vous voudriez commencer pour illustrer un petit peu ce que vous vivez à Montpellier depuis quelques années maintenant?
Alors, moi, je voulais commencer par une situation qui m'a interpellé, parce que justement, par rapport à ce que je disais, où des fois on voit arriver une situation et on se dit, oh là là, ça va pas le faire. Et là, c'était justement une situation de ce style, c'est-à-dire que une maman qui nous avait interpellé justement dans le cadre de la tentative de médiation familiale obligatoire. Donc la situation, c'était que donc le papa voyait son fils qui avait 6 ans dans un espace rencontre. Parce que je ne sais pas si je dois préciser ce que c'est qu'un espace rencontre.
Ouais, vous pouvez le rappeler. On l'a déjà dit, mais c'est toujours bon de rappeler les choses, Alexandre.
Ouais, bon, un espace rencontre, c'est un espace tiers où un parent qui n'a pas la garde et qui n'a pas un droit de visite établi vient visiter son enfant ou ses enfants dans un espace qui est sécurisé et qui permet d'avoir un recul parce qu'il est entouré de plus ou moins près par des personnes qui sont formées à poser un cadre qui permet que ça se fasse bien, en gros. Donc depuis pratiquement 6 mois, donc ce papa voyait son fils dans un espace rencontre et la question se posait de l'après, hein, puisque par définition l'espace rencontre c'est un espace qui n'a pas vocation à perdurer.
D'accord. Hein.
En général c'est 6 mois renouvelable, mais c'est vraiment le maximum. Et quand on veut le renouveler, on a l'obligation que ça soit, si les parents sont pas d'accord, l'obligation de retourner devant le juge pour refaire une demande.
D'accord,
donc
ouais.
La tentative de médiation familiale obligatoire se positionnait dans ce cas, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de retourner devant le juge pour qu'il décide encore de ce qu'on allait faire après l'espace rencontre. Il y a toujours un délai, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, par exemple, entre le moment où on dépose une requête devant le juge, alors je parle pour Montpellier, et où on peut avoir une audience, c'est aux alentours de 8 mois.
Ah ouais, ouais, oui. Et c'est plus ou moins à Rhodes, Lucia?
Ça dépend
chez nous aussi.
D'accord.
Oui.
Ça peut être 8 mois aussi.
C'est beaucoup plus court si on passe par la médiation. Si les personnes passent par la médiation et ils ont déjà un accord en médiation, pour le faire homologuer, c'est plus court. Oui. On n'est pas sur le même bassin de population.
Ah oui, bien sûr. Donc oui, pardon, Alexandre, 8 mois.
C'est vrai que sur Montpellier également, si y a un accord, si on passe en médiation et qu'il y a une convention parentale qui peut être rédigée et homologuée, ça va beaucoup plus vite. Mais quand on est obligé de passer devant le juge aux affaires familiales, bah, les délais sont importants. Donc voilà, là, dans cette situation, la question se posait entre le moment où est-ce que les parents tombent d'accord sur une organisation après l'espace rencontre, ou le cas échéant, comment ils font, comment ils arrivent à fonctionner en attendant de passer devant le juge, avec ce délai qui est relativement. Donc on évoque la situation, on rencontre chacun des parents, madame évoque ses craintes par rapport à la problématique alcoolique de monsieur. Monsieur évoque sa difficulté d'alcool, mais en tout cas me dit que pour l'instant, en tout cas, il est stabilisé, qu'il comprend pas pourquoi madame est inquiète. Et donc, de toute façon, chacun est d'accord pour venir en médiation familiale, sachant que monsieur est vraiment se sent vraiment mis en cause dans sa place de père, puisque madame. En gros, dit, moi, après l'espace rencontre, moi, je veux pas lui confier notre fils, quoi.
Ouais.
Parce que pour elle, c'était anxiogène. Et pour monsieur, c'est quelque chose de très déstabilisant parce qu'il a il a peur de perdre de sa place. Donc, on arrive dans cette situation avec une situation qui est un peu bloquée entre madame qui est dans la protection de son fils et monsieur qui est dans la revendication de sa place et dans un sentiment d'injustice parce que pour lui, bah, son rapport à l'alcool, il est un peu il est pacifié et que pour lui c'est injuste qu'on lui renvoie ça à chaque fois. Et puis en entretien commun, chacun relate un peu la situation telle qu'il la vit. Et puis madame, à un moment donné, et on arrive vraiment sur, après des considérations générales, on arrive vraiment sur du concret. Et madame dit que voilà, pour elle, le voir arriver, venir chercher leur fils avec la voiture sans savoir dans quel état il est, pour elle c'est ingérable. Ça lui provoque une peur qu'elle n'arrive pas à gérer. Donc elle préfère se mettre hors la loi et ne pas confier son fils plutôt que de prendre ce risque-là.
D'accord.
Et donc on avance et puis donc chacun revendique un petit peu son droit. Elle est une protectrice de son fils et puis lui à être le père de son fils, en tout cas s'investir dans sa vie. Et finalement, madame peut évoquer et nous renvoyons le fait qu'à un moment donné, chacun est légitime dans sa place, hein, mais que le but, c'est que de trouver une solution pour savoir comment faire avec tout ça. Et donc, madame vient, on vient réinterroger madame sur sa peur et sur ses besoins. Et donc, il apparaît que madame nous dit que c'est son besoin, ça serait d'être sûr que monsieur n'est pas consommé d'alcool au moment où il vient chercher son fils. Et pour en être sûr, son besoin, ça serait finalement que monsieur se sente autorisé à dire à madame, bah, je ne suis pas en état aujourd'hui.
C'est une sacrée démarche.
Sauf que monsieur n'est pas en capacité de le faire jusqu'à maintenant.
Ouais.
Parce que sa peur, c'est qu'on lui dise, c'est que s'ils disent qu'il n'est pas en état, ça vient enflammer l'angoisse de madame et qu'elle ne lui fournisse pas son enfant la fois d'après.
Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous avez fait ?
Ils ont pu entrevoir que chacun était dans une volonté de prendre sa place et que il y avait un fonctionnement qui était possible, c'est-à-dire que monsieur s'engage à informer madame de ses difficultés s'il peut pas venir chercher son fils, s'il a consommé, ce qui rassure madame, et madame s'engage si monsieur s'autorise à ajourner la prise en charge de son fils, madame s'est engagée à ce qu'il puisse, le week-end d'après,
récupérer
son fils s'il était en état.
D'accord. Voilà. Ouais, ça a dû être compliqué, là aussi.
Chacun ont été, plus personne n'a peur, puisque tout le monde est rassuré sur le fonctionnement, et puis les besoins de chacun ont été respectés. Donc, ils ont pu mettre en place, c'était un samedi après-midi, tous les week-ends, et ça a tenu. Et donc, on a été plus loin, parce que monsieur était quand même en grande souffrance. Par rapport à l'alcool, il n'était pas encore très très au clair par rapport à ça. Et il a pu nous évoquer sa honte, sa volonté de cacher aussi. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, il voulait cacher sa faiblesse par rapport à l'alcool? C'était qu'il ne voulait pas renvoyer quelque chose de une image négative à son fils. Et quelque part, et madame lui a dit, mais de toute façon, moi, quand je parle de toi à notre fils, je lui dis que tu es malade, et je lui dis que tu es courageux, parce que tu luttes contre la maladie. Ça, c'était un moment quand même assez émouvant.
J'imagine. Et puis vous devez rencontrer souvent des moments comme ça, particuliers, émouvants, comme vous dites, Alexandre. Alors là, on est dans le cas où, il y a un enfant, mais le sujet, c'est surtout, l'enfant est au cœur, en fait, hein, du conflit entre les deux membres du couple. Et j'imagine qu'il y a d'autres situations où l'enfant est encore plus au cœur de la médiation à proprement parler.
L'enfant,
ou le jeune,
ça nous arrive aussi de faire des médiations entre parents et adolescents. Hein. On veut parler d'enfants, donc c'est plus des enfants.
Oui, tout à fait.
Il crée le conflit aussi, c'est avec l'incapacité, ou en tout cas la difficulté de chacun des parents à voir son enfant qui n'est plus un enfant et à pouvoir s'adapter à ses besoins, à ses revendications, qui oblige les parents aussi, eux, à s'adapter dans leur place, en tout cas dans le fonctionnement.
Ouais.
Et souvent, ça vient mettre en difficulté les parents. Et s'il y avait encore une bribe d'incompréhension et de conflit entre les parents, ça vient la faire flamber.
D'accord. Eh mais bon, alors que les parents, ils aient des choses à changer éventuellement, parce que tout n'est, personne n'est parfait, pourquoi pas. Mais jamais c'est l'adolescent qui doit changer quelque chose, qui doit un peu peut-être aussi réfléchir sur ce qu'il fait ou son comportement. Si quand même, en médiation, vous amenez ces éléments-là quand ils se présentent.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, en général, moi, dans les cas que j'ai eu à recevoir, c'est toujours dans les situations, enfin, les médiations parents-adolescents,
ouais.
C'est toujours un des parents qui vient, ouais. En disant « faites quelque chose ». Parce que mon ado ne s'entend pas avec l'autre parent.
D'accord.
D'emblée, nous, on ne reçoit pas l'adolescent, parce que dans la majorité des cas, le conflit entre l'adolescent et l'autre parent vient se nourrir du conflit parental. Donc le piège, ça serait rentrer dans le fait de se dire, bah voilà, le problème, c'est l'adolescent. Tout simplement parce que de toute façon, de fait, l'adolescent, il est dans une modalité conflictuelle. Donc voilà. Il faut qu'il soit dans le conflit, il faut qu'il se permette d'être en conflit pour qu'il grandisse bien et pour qu'il puisse devenir un adulte. Donc on ne peut pas lui refuser ce conflit. Le but, c'est juste d'éclaircir la situation, d'aller pointer des modes de communication qui peuvent venir enflammer tout ça. Mais ça appartient aux parents. C'est pour ça qu'en général, c'est la maman qui vient en disant « Ouais, mon ado veut plus aller chez son père, ça va pas, moi je n'arrive pas à gérer ça, j'arrive pas à le forcer, etc. » Et en général, je leur dis, mais non, moi, je veux vous rencontrer tous les deux en tant que parents, parce qu'il y a un travail à faire avec les parents avant de rencontrer l'adolescent.
Ah oui, bien sûr. Alexandre, vous avez une préférence, vous, perso, hein, du type de dossier dans le cadre de la médiation familiale? Vous préférez tel ou tel type de situation?
Alors, c'est vrai que, après, c'est un hasard, mais c'est vrai que ça. Malgré le fait que je fais la médiation depuis longtemps, contrairement à mes collègues, donc je pense que c'est du hasard, mais contrairement à mes collègues, je n'ai jamais eu de médiation, par exemple, dans le cadre d'un héritage. Ou dans le cadre d'enfants qui devaient placer ou pas, en tout cas, leurs parents en EHPAD.
D'accord. C'est des regrets? Vous aimeriez bien les avoir?
Non.
Ah, pourtant.
C'est toujours bien d'avoir une multiplicité de pratiques pour pouvoir évoluer aussi dans ses compétences.
Ouais.
Mais non, c'est pas des regrets. Moi, je sais que j'adore travailler avec les parents,
ouais.
sur l'histoire de la relation. J'adore travailler avec les ados parce que ils sont très riches. Très souvent, ils sont très intéressants et ils ont une vision sur ce que vivent leurs parents qui est très 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 pointu. En général, ça fonctionne assez bien, donc c'est des situations qui sont plutôt agréables à vivre.
Toi, Lucia, t'as une préférence dans les dossiers de médiation familiale? Il y a des...
Moi, ça ne me dérange pas, le conflit. Bah, s'ils sont plus en conflit, ça va. Oui, non, pas vraiment, mais en général, qu'est-ce que j'ai eu comme médiation sont les séparations, divorces, d'accord, pour la résidence d'enfants pension alimentaire. Et je commence à avoir pas mal de demandes médiation de couple, c'est-à-dire les personnes, ils sont encore ensemble.
Pas encore séparées.
Exactement, pas encore séparées.
Ils voudraient éventuellement
éviter de se séparer. Ils ont besoin d'aide à la prise de décision. Donc, c'est préventif, tu vois.
D'accord.
C'est mieux qu'on prévenir que
guérir.
De traiter ou de guérir. Ouais. Oui. Exactement.
Ça vous plaît, vous, ce type de dossier, Alexandre? La prévention? Médiation de couple? Non, vous en faites?
Alors, c'est vrai que nous, moi, j'en ai fait quelques-unes. C'est pratiquement les situations qui me mettent le plus mal à l'aise.
Ah bon?
Parce qu'en général, quand on reçoit des personnes qui ne sont pas séparées.
Ouais.
Dans les faits, il y a une personne qui a déjà pris sa décision.
Ouais, qui est déjà plus là, en gros, ouais.
Voilà, qui n'est déjà plus là, et ça implique un déséquilibre. Nous, on est dans cette situation, on doit être au milieu et ne pas être ou d'un côté ou de l'autre.
Ouais.
Mais on sait, après avoir rencontré chacun des membres du couple, qu'il y a quasiment un inéluctable.
Ouais, c'est plié.
Quasiment, ouais, c'est plié. C'est plié. Et le travail, ça va être d'aller donner du sens à la prise de décision.
D'accord. Et oui, c'est important aussi, oui.
Sachant que chacun n'est pas dans la même temporalité et que celui qui a pris la décision, il a fait un chemin que celui qui va subir la décision va devoir faire.
Eh oui. Oui, Lucia.
Tu vois qu'on a commencé cette émission, en disant que on a fait la même école, d'accord, on a le même diplôme, mais on a des pratiques différentes. Mmh. Et à la fin, on a inclusivement des affinités différentes les types de médiation que on peut aimer faire.
Bah oui, bah c'est bien, chacun est différent. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter, il nous reste encore quelques petites minutes, peut-être un dernier exemple de médiation que vous avez réalisé et dont vous êtes heureux ou qui mérite d'être cité parce qu'il y a un caractère exemplaire, Alexandre.
Oui, alors, médiation, voilà, encore une fois, c'est un couple, donc des parents qui sont séparés depuis à peu près 6 ans, ou un petit garçon de 11 ans. Il y a une garde alternée qui est mise en place depuis quelques temps, mais la maman est toujours dans une volonté, en tout cas, voit que, en tout cas, ressent que son fils préférerait un droit de visite et d'hébergement, en tout cas une résidence principale chez elle, et un droit de visite et d'hébergement pour le papa classique, c'est-à-dire un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Et donc, on est dans une situation où vraiment, il y a eu de la violence au sein du couple. Alors, de la violence, apparemment pas des coups, mais en tout cas, de la violence verbale, de la violence envers la violence verbale envers le petit, voilà, un monsieur qui tapait un peu dans les murs, voilà. Quelqu'un qui est un peu,
un petit peu chaud.
Voilà, un petit peu chaud. Donc, il y a eu à un moment donné un refus de madame de donner son fils, en tout cas, au père. Il y a eu des dépôts de plainte mutuelles sur nos présentations d'enfants, etc. Donc, voilà, ça, on arrive avec madame qui est dans l'accusation de monsieur en disant, t'es quelqu'un de violent. Mais tout se passera mieux si tu le reconnais. Mmh. Et puis il y a un monsieur qui dit non, moi je peux pas accepter que tu me vois comme ça et que tu aies ce discours, donc je veux rien avoir avec toi. Et donc malgré ça, il y avait une garde alternée, mais voilà, c'était relativement tendu.
Ça va être compliqué, ouais.
Et donc on a travaillé, finalement on a commencé à travailler sur leur histoire de couple, parce que c'est ça qui revenait à chaque fois dans les interactions. Et puis, petit à petit, en retraçant la rencontre, la décision de vie commune, le mariage, la venue de l'enfant, chacun s'est rendu compte qu'il n'avait pas vécu la même chose. Madame s'est rendu compte que finalement, elle avait été complètement dépossédée de tout ça. C'est-à-dire que le mariage, c'est pas qu'il l'avait organisé. Ah ouais. Que la grossesse, c'est quelque chose qui était arrivé, c'était une grossesse non désirée, que monsieur voulait pas, finalement il a voulu, mais juste pour préserver le couple. Voilà, plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné, lui c'est pareil, il s'est rendu compte que finalement, suite à l'arrivée de l'enfant, il était complètement déposé, il se sentait complètement dépossédé de sa place par la mère de madame. Donc finalement, ils se sont rendu compte que alors qu'ils avaient l'impression que l'autre était l'un faisait violence à l'autre, et mutuellement, ils se sont rendus compte qu'ils ont vécu une relation qui leur faisait violence tous les deux. Et donc, on a aussi été questionné le fait que, comment ça se passait, hein, quand il y avait des passages à l'acte violent, même s'il n'y avait pas de coups. Donc, monsieur a pu dire que, voilà, dans la situation. Alors, on essaye, quand c'est comme ça, d'aller pointer un fonctionnement récurrent.
Hein, d'accord.
Une espèce de système qui s'auto-alimente. Et on va sur du vraiment très, 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 très factuel. Donc, monsieur nous renvoie le fait qu'il se sent dépossédé de sa place de père. Et qu'il se sent angoissé dans le fait de. Il se sentait angoissé dans le fait d'être mis à l'écart parce que. La maman de madame venait vraiment prendre une place qui le mettait à mal. Cette angoisse d'être mis à l'écart lui provoquait de la violence qu'il n'arrivait pas à gérer. Et comme il était violent, madame se mettait automatiquement en protection de leur fils. Ouais. Et le fait qu'elle se mette en protection de leur fils, ça impliquait chez lui un sentiment que madame le considérait comme quelqu'un de toxique pour leur enfant. Mmh. Ou potentiellement dangereux. Et ça revenait appuyer sur le fait qu'il avait peur de se sentir dépossédé dans sa place de père. Et voilà, c'était ce cercle vicieux qui faisait qu'à un moment donné, chacun a pu comprendre qu'il était partie prenante dans ce fonctionnement.
Et alors, vous avez réussi à dénouer tous ces nœuds ?
Voilà, tout à fait. Et donc, ils se sont rendus compte finalement. Ils sont passés d'une place de comme c'est souvent le cas en début de médiation, c'est que chacun se revendique victime de l'autre. Ils se sont rendus compte que finalement ils étaient dans le même bateau parce qu'ils étaient victimes d'un fonctionnement, en tout cas d'un mode relationnel qui les mettait à mal tous les deux. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, bah non, finalement, on est tous les deux victimes de pas l'un de l'autre, et d'une situation, et finalement, on est dans le même bateau. Et c'est imposé à eux la nécessité de trouver un autre fonctionnement pour que chacun puisse voir ses besoins respectés et qu'ils puissent reprendre leur place de parents sans être en opposition. Et donc, madame, à partir du moment où la tension s'est apaisée, elle a pu évoquer la garde alternée qui était difficile à gérer pour leur fils parce qu'au vu du fait qu'ils n'habitaient pas trop à côté, le soir, l'hiver, il fallait qu'ils rentrent en trottinette et que c'était dangereux, etc. Et monsieur a accepté, devant ça, d'entendre ça, et il a accepté de passer à une garde classique élargie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la garde alternée, il a accepté d'avoir un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, plus tous les mercredis.
Bon.
On est à la moitié des vacances scolaires et ça s'est passé comme ça. Donc c'est une médiation qui n'est pas finie, mais qu'on les voit demain.
C'est
une médiation qu'on va faire en co-médiation avec une de mes collègues. Et donc la dernière fois, la dame m'a dit, oh, je ne sais pas si je dois vous le dire, mais là quand on est sorti de la séance, on s'est pris dans les bras l'un de l'autre.
Ah bah d'accord, bah bravo. Bravo Alexandre.
Voilà. Vous c'est et pas la... forcément le but, hein, mais.
Non, mais écoutez, quand ça arrive, hein, on va pas le cacher. Alexandre Ramousse, je rappelle que vous êtes médiateur familial diplômé d'État du côté de Montpellier. Ça fait 7 ans que vous exercez. On arrive bientôt au terme de cette émission, l'ABC des médiations familiales, hein, sur CFM Rhodes. En 7 ans, vous en avez vu passer. Il y a eu, c'est quoi les grandes évolutions dans votre métier ou dans votre pratique? Il y a eu des grands changements, des grandes évolutions, soit dans le public, soit dans votre pratique à vous personnellement ou pas particulièrement en 7 ans?
Alors, dans le public, c'est vrai que de plus en plus, on voit arriver, en tout cas moi, j'ai vu arriver, des couples avec enfants qui n'ont jamais vécu ensemble.
Ah, couple, attendez, parce que maintenant, dans ma tête, il faut que je me le fasse le film. Ah, là. Des couples.
C'est même pas des couples. Hein, c'est... En gros, je vais être trivial, c'est le coup d'un soir qui débouche sur une grossesse, ouais. Sans interruption. Ouais. Et là, chacun...
Chacun continue sa vie, d'accord.
Ouais. Voilà. Chacun doit se positionner sur sa place.
Ouais.
Et là, ça vient poser question parce que c'est quelque chose qui est pas voulu et que ça remet en cause plein de choses.
Ah bah oui. Pour le coup, donc ça, c'est des situations que vous avez vu se développer ces dernières années.
Oui.
D'accord.
Tout à fait, ouais. Ces 3-4 dernières années, on a de plus en plus. C'est pas une majorité.
Non, hein, non.
Ça reste quand même à la marge, mais de plus en plus.
D'accord. Et du point de vue de votre pratique du métier?
L'évolution, c'est plus une évolution personnelle sur comment on se positionne.
Ouais.
Moi, au début, j'étais très attaché quand on n'est pas dans une sécurité qu'on commence. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première médiation, quand on l'a fait, hein, c'est un peu un saut dans le vide, hein, quand même.
J'imagine.
Face aux personnes, et que c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, il faut qu'on se raccroche à ce qu'on a appris à l'école, etc. Ça rend les choses un peu rigides. Petit à petit, on se rend compte que finalement, moins on est rigide et plus on laisse la place aux personnes.
D'accord.
Avant, il y avait une certaine verticalité en disant il y avait le professionnel et les parents. C'est vrai que moi, maintenant, ma manière de d'être médiateur, je suis garant du cadre de la médiation, mais dans la forme, les gens, je pense que à un moment donné, peuvent se sentir comme à parler avec un ami, quoi. C'est beaucoup plus horizontal.
D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît pour terminer, Alexandre, dans ce métier?
Ce qui me plaît, c'est que ça laisse libre cours à l'imagination, c'est-à-dire qu'à un moment donné. Moi, quand je commence une médiation, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. C'est ça qui est bien. Et on va au rythme des personnes. Enfin, moi, je vais au rythme des personnes. Des fois, enfin souvent, ça me pose la question de... Des fois, je crée des outils au fur et à mesure que je pense adapter à la situation.
Donc
ça, c'est vraiment sympa.
Lucia, t'es d'accord ou t'as tu partages les mêmes goûts pour ton métier que Alexandre ou t'en as d'autres?
Oui, j'aime bien la créativité qu'on met en médiation, mais aussi
l'indépendance. C'est un métier très personnel,
Exactement, l'indépendance que me donne cette métier, l'autonomie, oui.
L'autonomie aussi, c'est quelque chose d'important et qui est primordial et qui rend le travail vraiment très agréable.
Bon, et ben continuez bien du côté de Montpellier, Alexandre Ramousse, je le rappelle, vous exercez vos fonctions de médiateur familial diplômé d'État à l'ADAGE, c'est ça, la structure ?
Oui.
Bonne continuation à vous. Si vous passez par l'Aveyron, faites un petit détour par Rodez et nos studios, ça sera avec plaisir.
Je n'y manquerai pas.
Même si ça ne doit pas arriver très très souvent parce que vous travaillez beaucoup. Lucia, nous on se revoit dans deux semaines, mais c'est prévu. Hein.
En deux semaines,
exactement. Pour une nouvelle émission de l'ABC de la médiation familiale. Merci beaucoup Lucia d'avoir invité Alexandre, ton collègue.
Avec plaisir et merci Alexandre d'avoir accepté l'invitation de la médiation parce que c'était très riche de t'écouter.
Ouais, ce partage d'expérience et de connaissances. Merci beaucoup Alexandre.
Merci à vous deux.
Et merci Lucia, on se quitte avec un titre de ton choix une nouvelle fois.
Exactement, on se quitte avec Josh Turner, Your Man.
Merci Lucia.
Merci David.
Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. Never loved nobody way that I love you. We're alone now. You don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man.